Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et en ce début de saison sur Europe 1, Franck Ferrand revient à ses lointaines amours. Bonjour Franck.
Et oui, bonjour Anissa, bonjour à tous. Il y a 12 ans, en effet, le premier chapitre d'histoire que j'ai raconté au micro d'Europe 1 était l'Odyssée de Magellan, celui que nous nommons Magellan en France, mais que ses compatriotes portugais appellent Magalhães. Eh bien, comme un clin d'œil, en ce début de grande traversée 2015-2016, j'ai eu envie de renouer avec l'inspiration de mes débuts et de vous dire encore la belle, l'édifiante histoire du grand navigateur, le premier qui ait eu l'ambition de faire le tour de notre planète. Et pour nous aider à mieux connaître ce marin et quelques autres grands navigateurs, j'ai convié à nous rejoindre le président du Musée National de la Marine, Olivier Poivre d'Arvor.
Et tout à l'heure, Franck, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Philippe sur l'origine des agences de voyage.
Avouez que ça tombe bien. Je dois préciser cependant que du temps de Magellan, les agences de voyage ne couraient pas les rues. À mon avis, ça n'est pas nécessaire.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
C'est le Yalta de la Renaissance, et même un peu plus que cela encore, un peu avant l'an 1500, donc à l'époque de la jeunesse de Magellan, les deux plus grandes puissances maritimes, le Portugal et l'Espagne, ont décidé, sous l'arbitrage du pape, de se partager en deux le monde connu, certes, mais aussi, et c'est plus étonnant encore, les terres à découvrir. Vers l'Orient, les côtes africaines et indiennes seront réservées au comptoir portugais, et vers l'Occident, les nouvelles richesses de l'Amérique, du moins jusqu'au Brésil, seront pour la couronne de Castille. Pas étonnant dans ces conditions que Lisbonne soit devenue l'un des endroits les plus dynamiques du monde. La capitale portugaise s'impose comme la porte et la clé de l'Orient, le point de départ de toutes les aventures et le point d'aboutissement de toutes les découvertes. Il faut imaginer le long de la mer de Paille, les rives du Tage grouillant nuit et jour de la faune la plus cosmopolite, la plus étrange aussi. L'activité est à son comble le matin avant les heures chaudes de la mi-journée. Il faut imaginer tous ces bateaux à quai affrétés pour des destinations lointaines. Surtout, il y a tous ceux qui reviennent faire la fortune des armateurs et des négociants. Lisbonne, à l'époque, n'a rien à voir avec la Lisbonne que nous connaissons aujourd'hui, même si, évidemment, lorsqu'on se promène dans Lisbonne, et c'est un des grands plaisirs que nous réserve le tourisme actuel, lorsqu'on se promène, on voit encore les vestiges de cet empire gigantesque. On comprend l'importance qu'a pu avoir cette ville. À l'époque, c'était New York, que dis-je? C'était Hong Kong, Shanghai ou Singapour. Tout le XVIe siècle en puissance, avec ses espoirs et ses excès, se trouvait résumé dans cet estuaire. Alors on en prend plein les yeux dans la Lisbonne de l'époque, et plein les oreilles, plein les narines si je puis dire. Ça sent la marée bien sûr et le goudron. On est en train constamment d'entretenir ces grands navires, ça sent les épices. Je dis grands, ils étaient nettement moins grands que ce qui a pu advenir par la suite du reste. Par-dessus tout ça, le bon air salin, celui qui fait chavirer l'esprit des rêveurs. Et bien parmi les rêveurs qui passent leur vie sur les quais, il y a un jeune homme qui n'est ni un matelot ni un marchand à la sauvette. Fernand de Magalhães est un jeune noble sans fortune. Il est page de la reine seulement. Il se sent seul. Il se sait mal aimé, incompris, et il n'attend que le jour où lui aussi pourra s'en aller courir le monde sur une belle caravelle. Dès l'âge de 18 ans, Fernand s'embarque pour le grand voyage. Le voilà parti pour Goa, pour les Indes et Malacca, la Malaisie. Ses capitaines, tout de suite, vont apprécier son sérieux. C'est un garçon fiable. Il a un sang-froid à toute épreuve. En revanche, on déplore son mauvais caractère. Oh, il faut le dire, le problème de Magalhães dans la vie, c'est qu'il est revêche. Il est même tellement difficile qu'on a du mal à lui faire confiance. Il faut dire qu'avant même qu'il n'arrive à Lisbonne, déjà son père le considérait comme une sorte de personnage impossible. Plus tard, quand il va s'embarquer pour les terres lointaines, ses capitaines ont toujours à son égard une sorte de recul et de réserve. Et de retour, lorsque engagé dans l'armée, il se battra contre les Maures au Maroc, le gouverneur lui-même le présentera comme un personnage d'un caractère affreux. Et pour autant, tout le monde s'accorde sur la valeur de ce jeune homme qui se sait né pour de grandes choses. Il a en lui la plus précieuse peut-être des qualités qui font un aventurier, la curiosité. Et c'est cette curiosité sans doute qui l'a amené à pousser la porte de la Casa de India. Il a potassé là les planisphères qui étaient déjà disponibles. Vous savez qu'on est à la grande époque de la cartographie. Il a rencontré un cosmographe, Ruy Faleiro, qui est un petit peu le contraire de lui. Lui est petit et sec, l'autre est grand et gras, si je puis dire. Vous aurez bien compris que Magallien est renfermé, très discret, introverti. L'autre, Faleiro, est bavard. C'est une sorte de fanfaron avec une verve extraordinaire. Ensemble, ils ont acquis la conviction que l'on pourrait bien gagner les Moluques, et quand on dit les Moluques, c'est toutes les épices, toutes les richesses de l'Orient, non pas en contournant l'Afrique vers l'Est, comme on le fait, mais en contournant le nouveau continent américain vers l'Ouest. Cette idée extraordinaire, cette grande idée, Magallien l'a jetée sur un parchemin et il s'est placé sur le chemin du roi de Portugal. En le voyant, Manuel II a soupiré, il a dédaigné la proposition, il a repoussé le jeune homme sans ménagement. « Sire, au moins que votre majesté m'autorise à chercher un soutien ailleurs !» Alors là, le roi s'est arrêté, s'est retourné vers lui. « Magallien, allez au diable !» Le diable, pour un Portugais, c'est évidemment le royaume de Castille. Magallien ne se l'est pas fait dire deux fois. Il va devenir Magellan, si je puis dire. Le voilà en Espagne, en Andalousie, à Séville, sur les bords maintenant du Guadalquivir. On est sur un autre estuaire, sur un autre fleuve maritime, d'une certaine manière. Peut-être encore plus dynamique que ne peut l'être Lisbonne à la même époque. À Séville, Magellan a trouvé refuge chez son parent Barbosa, qui le reçoit, qui l'habille de pied en cap et qui lui dit « T'en fais pas mon petit gars, je vais t'aider moi. On va faire fortune ensemble, je vais te présenter l'homme qui peut tout rendre possible. » L'homme en question, c'est Juan de Arenda, c'est le patron de la Casa de Contratación, c'est l'homme qui gère les expéditions pour toute l'Espagne et qui d'emblée va flairer le bon marin en Magellan. Il flaire aussi le bon filon, il lui dit « Je vais vous présenter à mon roi. » Le roi en question, c'est le jeune Charles Ier, celui que nous appellerons, nous, après son élection au trône du Saint-Empire en 1519, Charles Quint, bien entendu. À l'époque, il n'a même pas encore 20 ans. Mais Charles, et c'est une des qualités nombreuses de ce souverain hors du commun, Charles sait juger les hommes. Et dès qu'il a vu Magellan, il a senti qu'il pouvait lui faire confiance. Il a lu dans son regard un éclair de certitude et il s'est dit « Mais... et si cet homme-là était mon Christophe Colomb à moi ?» Il a rêvé, bien entendu, des extraordinaires expéditions qu'avait accomplies Colomb du temps du règne de la reine Isabelle. Et pourquoi pas recommencer d'une certaine manière ? Alors, Charles a donné des ordres pour qu'une flotte soit confiée à Magellan. « Allez au diable !» avait lancé à Magallien le roi de Portugal. Et bien aujourd'hui, le jeune homme se dit que le diable castillan est bien généreux.
Extrait du vaisseau fantôme de Richard Wagner à l'instant sur Europe 1, puisque cet après-midi, Franck Ferrand voyage grâce à vous. Vous nous emmenez à la découverte des célèbres navigateurs et explorateurs comme Magellan, bien sûr.
Et oui, et il respire Magellan. Il a 39 ans et dites-vous que pour la première fois, on lui a fait véritablement confiance. Pourquoi faut-il que ce soit chez des étrangers? Vous savez ce qu'on dit, nul n'est prophète en son pays. Pour la première fois, donc, on lui donne sa chance. Sa chance, elle porte non pas un, mais quatre noms. Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria, Santiago. Les cinq navires que la couronne d'Espagne vient de mettre à sa disposition. Oh, ils ne sont pas tout neufs, hein. C'est plutôt de vieux rafiaux qu'on a calfatés, radoubés, réarmés. Mais ça fera l'affaire. Magellan est là sur les quais à tout vérifier, tout surveiller, tout contrôler. Il est l'organisateur de l'expédition et c'est un organisateur hors pair, peut-être aussi bon dans l'organisation qu'il le sera dans la navigation. Nous allons voir ça dans un instant avec Olivier Poivre d'Arvor. Un stock de vivres est chargé à bord des différents navires, bien entendu, stock de matériel, de bimbeloterie, en fait, etc. On est habitué déjà maintenant. Et lorsque finit l'été, que les navires ont été repeints à neuf, que les gréements ont été refaits et qu'ils arborent de belles voiles bien blanches, battant pavillon multicolore, Magellan est fier de présenter son armada à Faleiro qu'il a fait venir. Et le cosmographe est sidéré. Alors, bien sûr, Magellan lui propose de s'embarquer avec lui, mais est-ce que c'est par susceptibilité ou tout simplement parce qu'il manque de courage pour le faire ? Toujours est-il que le vieil ami décline l'invitation. La foule est venue nombreuse jusqu'à Sanlúcar, c'est-à-dire à l'extrémité du Guadalquivir. Elle est là en liesse en ce matin du mercredi 21 septembre pour accompagner le départ des vaisseaux. Et il faut imaginer, bien sûr, on est en Espagne, hein, tous les prêtres qui sont là pour bénir la petite flotte. Les canons de la rade lui souhaitent bon vent à leur façon, une salve détonnante. Magellan est là, qui salue la foule, mais au fond de lui, il sait très bien que le ver est dans le fruit, ou plutôt dans le bois des carènes. Or, ce ver porte un nom, c'est la jalousie. Car, imaginez la tête des capitaines espagnols qu'on a placés sous la tutelle de ce petit boiteux renfrogné de surcroît portugais d'origine. Vous imaginez, ça ne les amuse pas du tout. Comment obéir à un tel maître ? Certains, comme le marquis de Cartagena, qui est grand d'Espagne, etc., qui commande le San Antonio, certains manifestent d'emblée leur désobéissance. Seulement ça ne va pas durer longtemps. À la première occasion, le capitaine général, comme il s'est lui-même intitulé, destitue Cartagena pour insubordination. Édain. Magellan ne se perd pas en vain discours. Quand il faut agir, il agit. Avis aux amateurs. Il ne faut pas s'étonner que, dans une telle ambiance, Magellan reste le plus souvent seul, même lors de la redoutable traversée de l'Atlantique. Alors évidemment, il a quelques amis, si je puis dire, à bord, ou en tout cas des personnes qui lui sont plus favorables. Je pense notamment à un jeune Florentin qui s'appelle Pigafetta, qui est le scribe de l'expédition et qui va tenir de bout en bout un admirable journal de bord. Mais le seul qui ait toute la confiance du capitaine général, c'est son esclave malais, Enrique, un colosse qu'il a acquis jadis à Malacca et qui lui sert plus ou moins de garde du corps, qui est là constamment avec lui, qui est un peu comme son ombre. Ce malais le suit partout, ce n'est pas son âme damnée, ce serait plutôt son ange gardien, un ange gardien qui se promène avec un grand poignard à la ceinture. On se dit qu'on ne sait jamais quand même, hein. Début décembre 1519, ils sont partis le 21 septembre, je vous le rappelle, les vigies de l'expédition Magellan font entendre ce cri si cher aux marins au long cours. « Terre, terre en vue !» L'amiral se déride enfin. La voilà donc, cette Amérique qui jusqu'alors avait pour lui été une Amérique de papier. Et là, il en aperçoit déjà les côtes. Les équipages font la fête, surtout quand accourent les Indiens. Je dis les Indiens, mais il faut imaginer les Indiennes aussi, hein, qui sont pas farouches. On s'apprête à passer des semaines bien douces dans des huttes regorgeant de fruits en tout genre. Seulement voilà, ça c'était sans compter avec le sérieux du capitaine général. Lui a décidé qu'aussitôt le ravitaillement effectué, on se remettrait en route. Les marins ne sont pas d'accord, les matelots maugréent, les capitaines s'insurgent. Mais enfin, pour qui nous prend-il, ce fanatique ? Une seule chose, il ne pense qu'à une chose, c'est son espèce de passage vers la mer du Sud. N'oubliez pas que c'est en effet la motivation de Magellan, trouver ce passage, le passage. Seulement, on a beau piquer au Sud, pour l'instant, aucun passage ne se présente. Ah, alors il y a des fausses pistes, même en quantité. On croit un moment voir la terre s'entrouvrir, on se dit « ça y est, c'est là ». Non, ce n'était qu'une embouchure, ou c'est une anse, ou une baie, ou un bras de mer. Mais tout ça aboutit toujours sur des cul-de-sac. La lassitude finit par gagner les équipages. Alors, vous savez comment ça se passe. Un psychologue serait mieux placé que moi pour vous donner l'évolution des psychismes à bord, hein. Ça commence par le doute, et puis la méfiance qui s'installe avec la rumeur, les mauvaises idées, bien entendu. Et Cartagena, qui a été destitué de son poste de capitaine, est là, bien sûr, pour jeter de l'huile sur le feu. Courant mars, il finit par pousser à la mutinerie, et trois des cinq vaisseaux de Magellan se révoltent. Ça, c'est c'est vraiment le gros coup dur. Magellan va devoir faire preuve, et ça n'est pas dans son caractère, croyez-moi, il va devoir faire preuve de patience, de ruse. Il fait semblant de plier, moyennant quoi il parvient in extremis à retourner la situation. Et là, il châtie les coupables. Il trouve le moyen de sortir de l'épreuve renforcé. Maintenant, il a placé sur les 5 vaisseaux des capitaines qui sont des hommes à lui, qui sont des Portugais au passage et qui sont de vrais fidèles. Pour autant, tous les nuages ne sont pas dispersés, c'est le cas de le dire, car dans l'hémisphère sud, évidemment, le mois de mai annonce le début de la mauvaise saison. Pour les marins, c'est le temps des coups de chien, et ceux de la Patagonie sont sévères. Un soir, tout noir, dans une tempête plus rude que les autres, le petit Santiago, qui était en quelque sorte le petit frère de l'expédition, le plus petit des navires, fait naufrage. C'est la première fois qu'on voit Magellan céder. Alors attention, je vous dis qu'il cède, ça ne veut pas dire qu'il va faire demi-tour. Simplement, il accepte que la petite flotte vienne s'abriter pendant 2 mois dans l'estuaire d'un fleuve. Après ces 2 mois, est-ce qu'on va faire demi-tour? Est-ce qu'on va retraverser l'Atlantique en direction de Séville? Pas du tout. C'est la marche au sud qui reprend. Marche vers le sud, toujours un peu difficile, toujours aussi peu fructueuse, toujours aussi décevante, car aucun passage ne se dessine à l'horizon. Les degrés de latitude méridionale s'accumulent. On descend à 44 degrés de latitude sud, 48 degrés. 52 degrés de latitude sud, et à l'arrière de Trinidad, le capitaine général ne se laisse pas démonter. « S'il le faut, dit-il, nous descendrons jusqu'à 75 degrés, mais nous finirons par le trouver, ce sacré passage. Je vous jure que nous le trouverons. »
Et tous les jours, vous pouvez réagir à l'émission, soit sur la page Facebook de Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant sur Europe 1 pour la suite de son récit consacré aujourd'hui aux aventures maritimes de Magellan.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Franck Ferrand, cet après-midi sur Europe 1, nous prenons le large à la découverte des explorateurs et des navigateurs qui ont marqué l'histoire, et nous sommes sur le bateau de Magellan.
Et qui descend toujours plus au sud. Un matin d'octobre, les veilleurs annoncent un promontoire à tribord. Oh, on dirait c'est un de plus, parce qu'on est habitué. On en a vu maintenant des embouchures, des estuaires et des baies. On ne lève quasiment même plus la tête pour les chercher du regard. Quand même, celui-ci paraît dissimuler une entaille plus profonde dans la côte. Alors, 2 navires, le San Antonio et le Concepcion, sont envoyés en repérage. Ils vont tout de même disparaître pendant 3 jours. Ça, c'est bon signe. Chaque heure qui passe fait naître un peu plus d'espoir. Et lorsqu'ils reviennent, ils sont porteurs de nouvelles encourageantes. Ils ont trouvé de l'eau salée très loin dans les terres. Et mieux, cette eau connaît des flux et des reflux. Alors, est-ce qu'il pourrait s'agir du passage tant espéré? Magellan ne bronche pas. Vous savez, c'est un homme, je vous ai dit, très introverti. Il garde tout pour lui, mais enfin quand même, son cœur bat plus vite. Les 4 navires vont maintenant s'enfoncer ensemble. Ils sont parvenus loin dans les terres. Il y a maintenant 2 voies possibles. Vous savez, ça c'est la fourche que redoutent les aventuriers, bien entendu. Alors, le capitaine général envoie San Antonio et Concepcion en repérage sur la gauche et lui-même prend à droite, c'est-à-dire qu'il met cap au nord-ouest avec Trinidad et Victoria. Sans le savoir, le grand navigateur a choisi la bonne route, puisque le 28 novembre, il va percevoir dans le lointain ces cris provenant d'une chaloupe envoyée en éclairage. « Le passage, c'est le passage !» Sur le pont arrière du vaisseau amiral, Fernand de Magellan est immobile, il a l'air impassible. Seul le fidèle Henrique peut voir 2 grosses larmes qui coulent jusque dans sa barbe. Magellan vient de trouver le passage qu'il cherchait au sud de l'Amérique. Mais maintenant, 2 de ces vaisseaux manquent à l'appel. On retrouve Concepcion assez vite, mais l'équipage de San Antonio s'est mutiné. Il a décidé d'abandonner l'expédition et de rentrer seul à Séville. Le problème, c'est que le gros des vivres était entreposé sur ce navire. C'est donc en quelque sorte le garde-manger de l'expédition qui vient de s'en aller et de reprendre l'Atlantique. Qu'importe, le nouvel océan qu'on se prépare à traverser paraît toujours bleu, toujours calme. Le capitaine général décide qu'on l'appellera, puisqu'il est si calme, l'océan Pacifique. En vérité, on aurait peut-être mieux fait de le baptiser océan désertique, car en dépit d'une vitesse de croisière élevée, les trois navires n'aperçoivent pas le moindre îlot à l'horizon. C'est d'autant plus regrettable que quand on s'approche de l'équateur, qu'il fait de plus en plus chaud. L'eau commence à manquer à bord. Quant à la nourriture, je ne vous le dis même pas. On va se mettre à chasser le rat dans les cales, en attendant de faire rôtir les malheureux chats du bord, qui n'avaient plus de rats à chasser en plus. Des semaines vont passer sans qu'on décèle le moindre banc de sable. On en viendra à faire de la soupe de copeaux de bois trempés dans de l'eau de mer. Dites-vous que certains matelots vont aller jusqu'à découdre les carrés de cuir au coin des voiles et les mettre à mijoter des heures entières, et on mange ça, cette espèce de vieux cuir. Vous imaginez ce qui se passe. Le scorbut se mêle à tout ça. Les gencives se mettent à gonfler. Les hommes tombent comme des mouches. Presque chaque jour, on doit faire basculer des corps sur la planche graissée au suif, du moins tant que les marins n'ont pas eu l'idée de lécher le suif. Décembre, janvier, février, enfin, par un jour béni de mars, l'expédition découvre un petit archipel. Et ça y est, voilà les indigènes sur leurs pirogues qui approchent, qui montent et qui se mettent à piller les navires. C'est l'archipel des Larrons, ainsi va-t-on les baptiser. Puis ce seront les Philippines, et ceux qui ont survécu, ils sont de moins en moins nombreux, vont connaître le bonheur de reboire à sa soif, de remanger, si je puis dire, à sa faim. Le 28 mars 1521, retenez cette date, l'ange gardien de Magellan, vous savez, cet esclave au poignard, là, le grand Henrique, se rend compte qu'il comprend vaguement le dialecte des indigènes. Et là, Magellan n'en croit pas ses oreilles, mais « Henrique, tu comprends ce que disent ces hommes ? Il embrasse le malais comme du bon pain, mais tu réalises ce qui t'arrive, Henrique. Tu es parti de ton pays par l'ouest. Aujourd'hui, tu y reviens par l'est, Henrique. Tu es le premier homme à avoir fait le tour du monde. » Il a bien changé, Magellan. Depuis qu'il a réussi son pari, c'est un autre homme. Lui qui s'habillait de bure et de lin, le voilà paré de soie et de fil d'or. Lui qui ne parlait presque jamais, le voilà devenu brillant causeur. Et surtout, lui qui était la prudence incarnée, le voilà qui se mêle des querelles intestines entre les roitelets locaux. Il s'est pris d'amitié, pour tout vous dire, pour un sultan, le sultan de Cebu, qui s'appelle Umabon, et qui s'est converti au catholicisme avec tout son petit peuple. Et bientôt, le capitaine général va prendre le parti du sultan contre le raja de Mactan. Il est convaincu de la supériorité militaire universelle des Espagnols, Magellan. Il organise une expédition punitive qui va tourner au bain de sang, et c'est aussi bêtement que ça que par un petit matin d'avril 1521, sur une plage inconnue de Mactan, les lustres navigateurs portugais, explorant pour le compte du roi d'Espagne, mourra percé de flèches empoisonnées, abandonné dans le ressac rougissant autour de lui. Ces hommes ne pourront même pas récupérer son corps. Il ne verra donc jamais le capitaine général, il ne verra jamais les ultimes péripéties de son expédition, il ne verra pas le Victoria rentrer seul à Séville avec seulement 18 rescapés à bord. Il ne verra pas non plus Magellan, le capitaine Sébastien Elcano, se faire honteusement valoir à son détriment pour aller cueillir seul tous les lauriers. Du moins, il aura tenu parole. Il aura prouvé une fois pour toutes que la terre était bel et bien ronde, peu importe après cela que la route ouverte par l'ouest ne soit pas la plus praticable. De toute façon, comme devait l'écrire le jeune Florentin Pigafetta dans l'extraordinaire journal de bord qu'il a tenu et qui nous permet de revivre les soubresauts de cette terrible expédition. Voilà ce que disait Pigafetta. « Je ne pense pas que personne dans l'avenir veuille entreprendre jamais un pareil voyage. » Bonjour Olivier Poivre d'Arvor, merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons grâce à vous revivre non seulement l'expédition de Magellan mais un certain nombre d'autres puisque nous reprenons la mer sur les traces de grands navigateurs.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Fernand de Magellan et les navigateurs qui ont marqué l'histoire sont à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Olivier Poivre d'Arvor, diplomate, écrivain et président du Musée National de la Marine, auteur avec Patrick Poivre d'Arvor de l'Odyssée des Marins, découvreur, explorateur, pirate, corsaire et grand navigateur chez Robert Laffont.
Mais quel programme Olivier Poivre d'Arvor, vous imaginez ça, les explorateurs, les corsaires, ils sont tout ça. Ce qu'on découvre en vous lisant, c'est que pour être un grand navigateur, bien souvent, il faut posséder posséder des qualités qui ne sont pas seulement les qualités de la marine. Il faut être un bon cartographe, un bon organisateur, un meneur d'hommes. Enfin, c'est une activité qui réclame beaucoup de qualités.
Bon, ça dépend des époques, hein, évidemment, oui, parce que là, celle que vous avez narrée avec beaucoup de talent, c'est l'époque de la découverte. Mais avant même Magellan, qui nous paraît extrêmement audacieux, il y a ces premiers navigateurs dont on a assez peu de traces, les Égyptiens, Hippalus, qui découvrent la Mousson. On a évidemment toute cette navigation arabe, parce que tous les endroits dont on parle là et dont on va parler avec Colomb, Magellan, Gama, tout ça a déjà été vu et fréquenté par les Vikings et d'autres. Ça. Donc, selon les époques, avec les instruments qu'on avait, et là, en l'occurrence, Magellan en avait assez peu, il faut surtout une dose incroyable d'inconscience.
C'est
ce qui les caractérise, je crois, à peu près tous. Et encore aujourd'hui, les Colas, les Tabarly, tous ceux qui disparaissent aujourd'hui en mer, malgré, évidemment, les progrès de la navigation, sont quand même des gens totalement inconscients et géniaux pour ça.
Et quelle ténacité, bien entendu. Alors, je parlais de là, pour ce qui est de l'époque du début du XVIe siècle, de la Casa de Contratación, qui est le ministère de la Marine du Royaume de Castille de l'époque, de ce qu'on appelait les Espagnes. Et dans cette maison figurent des archives qui nous permettent quand même d'avoir le récit assez détaillé des expéditions. Mais on ne sait pas ce qui se passait à bord. Et pour savoir ce qui se passait à bord des navires de Magellan, on n'a que la plume de Pigafetta, somme toute.
Oui, hein. C'est difficile. D'ailleurs, quand on a notre ouvrage, c'est 1000 pages. Dans 1000 pages, on raconte ce qui se passe en gros du début de l'ère chrétienne jusqu'aux années de 2000 aujourd'hui. Et bon, c'est plus facile à partir du 19e siècle parce que là, il y a des vrais récits.
Alors là, oui, bien sûr.
Mais avant, en effet, on a peu de choses. Et là, la chance qu'on a, c'est que Pigafetta, en effet, écrit comme Marco Polo un texte formidable qui va arriver jusqu'à nous, qui va être traduit, etc. Et qui va relater cette expédition malheureuse, hein, puisque je crois qu'ils partent à 300 Magellan, ils vont arriver à 18.
C'est incroyable.
Et c'est parce qu'on a ce texte-là. Alors, sachant bien que il y avait très peu de gens sur un bateau comme celui-là qui savaient écrire. Magellan savait écrire, mais probablement sur les 300 hommes, il y en avait un ou deux. Et donc, il y avait ce rôle essentiel de l'écrivain de bord qui néanmoins, souvent, imaginait, fantasmait, illustrait, un peu de littérature quand même au bout de l'exercice. Hein.
Je me suis rendu compte au fil de toutes ces années passées au micro d'Europe 1 pour raconter des aventures que ces grands récits de marine sont particulièrement prenants. Que vous parliez d'Éric le Rouge, que vous parliez du Marco Polo dont vous me parlez. Alors Marco Polo, lui, il est navigateur surtout pour le retour.
Hein,
parce
pour le retour,
que à l'aller, il est plutôt piéton.
Mais il est vénitien, hein, donc il parle de Venise, qui est quand même une des grandes capitales avec Gênes. Gênes étant la ville de Colomb, mais Venise est un endroit... Enfin, toutes ces vocations, ça prenne sur les ports, en effet. Vous l'avez cité avec Lisbonne pour Magellan. Mais c'est vrai que ce qui me frappe quand on a travaillé à tout ce texte, d'abord, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs partout. C'est-à-dire que tout le monde fait des erreurs. On n'est pas d'accord sur l'année, le jour, mais y compris même la découverte des Amériques, etc. Parce qu'on a des documents extrêmement lacunaires. Et que ce qui est la magie de ces récits, ce qui fait que probablement vous avez commencé votre émission il y a maintenant 12 ans et vous racontez encore Magellan, c'est que ces récits sont éternels et ils font la joie des petits-enfants que nous étions quand nous avions 10 ans. Ils font la joie non seulement des Occidentaux, parce que là on raconte quand même la découverte de l'Occident, la découverte de l'Orient par l'Occident,
oui,
mais partout dans le monde tout ça est lu.
Oui.
Parce que ce sont évidemment des récits universels.
Ils s'entraînent les uns les autres. Ouais. On dit que sur la table de chevet de Colomb figurait le devisement du monde, c'est-à-dire livre des merveilles de Marco Polo.
Oui,
donc en fait, ça les fait rêver, ça leur ouvre des horizons d'une certaine manière.
Il y avait d'abord très peu de livres à lire à l'époque, mais enfin, ces livres en effet étaient traduits pour certains, existaient en quelques exemplaires et en effet, ils ont nourri des vocations, chacun voulant aller plus loin. Tout ça, cette époque des découvreurs, ça se passe en 10 ans. Il faut imaginer qu'en 10 ans, le monde est découvert. Qu'il y a 10 fous, Colomb, Magellan, Gama, Cabral, etc. 10 fous qui se tire des bords, hein, et certains vont arriver un peu avant les autres, et c'est à quelques jours près parfois. Et un peu plus tard, on retrouvera la même chose au XVIIIe siècle avec Kerguelen, Cook, ça, les Français, les Anglais, qui vraiment, à quelques heures près, vont découvrir les uns Tahiti, un morceau du Pacifique, des îles imaginaires comme les îles Kerguelen, etc. Enfin, pas imaginaires, mais en tout cas bien plus pauvres que celles que Kerguelen a pu raconter. Enfin, on est dans des moments d'intensité de l'histoire. Et je crois, une des explications, vous parliez de Magellan et du Portugal, mais Portugal, c'est minuscule. Enfin, vous le connaissez, sur la carte, c'est rien du tout. Et je crois que les Portugais, à l'époque, avaient la conscience que leur pouvoir ne pouvait être réel sur le monde que s'il sortait du pays. Et quand on est trop bien dans son pays, ce qui est le cas des Français, les Français étaient un peuple d'agriculteurs et ils voyageaient assez peu, ils naviguaient assez peu, d'où la relation assez complexe qu'on a avec la mer, nous les Français.
Et la souffrance pour Magellan, ça a été d'être obligé de passer par l'Espagne pour aller conquérir le monde. Mais enfin, ça, c'était...
Oui, mais c'est dans le fond, c'est... Et Colomb a dû aussi aller voir, lui...
le Génois, lui, est passé
a dû aller
lui.
Voir les Espagnols. Et il était allé voir les Portugais avant, il s'est fait renvoyer dans ses buts. Mais c'est vrai que dans le fond, il fallait trouver le commanditaire, il fallait trouver le mécène, et ça, c'était le plus compliqué, évidemment.
Alors, puisque vous nous parlez des Portugais, disons un mot peut-être d'Henri le Navigateur, dont on trouve, lorsqu'on se promène à Lisbonne en particulier, mais d'une façon plus générale dans les différentes régions du Portugal, dont on trouve des statues. Il est une sorte de figure tutélaire pour les Portugais, quasiment inconnu en France, et lui, c'est un navigateur qui ne navigue pas, si je puis dire.
Oui, c'est... Henri le Navigateur, c'est essentiel, hein, c'est le début de l'histoire de tout ça. S'il n'y avait pas eu cet homme-là, bon, il a la famille royale, etc., mais il ne va pas régner. Il est né en 1394 à Porto, il va mourir en 1460. Mais il va s'illustrer parce qu'il a compris que son pays, ce pays qui certes à l'époque est relativement riche, mais qu'il doit s'étendre et notamment découvrir cet espace inconnu qui est l'Afrique, cette côte que... qui est si proche à la fois du Portugal, mais en même temps sur lequel il n'y a aucun document, il n'y a aucune carte à l'époque. Et donc, il va se passionner, parce que c'est un scientifique, pour le savoir, il va collectionner un certain nombre de cartes, de récits de voyage dans un observatoire qui s'appelle Sagres, où il va s'installer. Et là, à partir de là, il va lancer, d'abord il va inventer la caravelle. Il faut quand même bien comprendre que s'il n'y avait pas eu toutes ces inventions de navigation, on n'aurait pas pu aller très loin. Donc il va mettre au point la caravelle et puis il va commencer à armer avec de l'argent qu'il avait, puisqu'il était assez riche, les premières expéditions. Et peu à peu, on va descendre le long de la côte africaine, parce que l'objectif c'est évidemment d'aller rejoindre les Indes.
Hein, oui. Alors cette fois par l'Orient.
Hein. Et par l'Orient, absolument. Et puis alors, il pousse un peu, il va envoyer un certain nombre de marins le long de cette côte. Et peu à peu, dans le fond, l'Afrique va devenir portugaise, et d'où d'ailleurs aujourd'hui l'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert. Enfin, on en trouve encore les traces très vivantes.
Alors, les Occidentaux, de leur côté, cherchent des voies maritimes pour aller chercher les richesses de l'Orient. Il ne faut pas oublier que du côté oriental, on cherche la voie vers l'Occident. Et il semblerait, ça a fait un énorme scandale quand c'est sorti, ça je ne me rappelle plus trop, mais il y a une dizaine d'années maintenant, ce livre énorme sur Zheng He, amiral chinois, qui aurait découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb, en vérité. Hein.
Oui, alors Zheng He, c'est très intéressant parce que c'est un eunuque, hein, et donc de la cour d'un empereur,
un mandarin chinois.
Un mandarin
en fait,
chinois, oui. Et donc comme tout mandarin, en l'occurrence proche du roi, il est castré à l'âge de 13 ans et il est absolument pas marin. Mais comme il va être apprécié par son souverain, après avoir été capturé et castré, il va être fait amiral. Et Yongle, qui est l'empereur de l'époque, est le seul empereur qui pense que la Chine doit sortir de ses frontières. La Chine est fermée, la Chine ne s'est réouverte que récemment, et elle va se refermer après la mort de Zheng He. Et Zheng He va être le grand amiral de la flotte impériale, sans jamais être allé en mer jusqu'alors. Il va lancer la construction de centaines de navires à Nankin, puisque la Chine se développe. La capitale va passer de Nankin à Pékin. Et il va effectuer 7 voyages entre 1400, 1405 et 1433. Et il va véritablement, non pas vouloir conquérir le monde, mais expliquer ce qu'est la Chine. Il n'y a pas du tout ce désir de conquête qui existait chez les Occidentaux. Mais en effet, on dit qu'il a découvert les Amériques. Très honnêtement, rien ne le prouve. Aucun document sérieux ne le prouve. Et régulièrement, tous les 10 ans, on découvre...
C'est intéressant de voir que l'historiographie suit la géopolitique et que la percée actuelle de la Chine sur la scène internationale s'accompagne de la redécouverte, si je puis dire, d'un certain nombre d'explorateurs qui sont censés avoir
absolument été... Par contre, on pourrait, sans beaucoup de risques, dire que tous ceux qui ont précédé ces Occidentaux dont on parle sont les navigateurs arabes. Ahmed Majid, par exemple, que Magellan va rencontrer, que
Gama
va rencontrer.
Le marin de Mahomet.
Oui, marin de Mahomet. Lui a évidemment, probablement, été très, très, très loin. Simplement, il n'y avait pas d'écrivain à bord, il n'y avait pas de scribe, il n'y avait pas de pigafetta. Donc, il reste très peu de traces de tout ça.
Oui, et sans doute beaucoup d'exploits sont restés sans gloire au milieu des ténèbres, comme aurait dit Corneille. Alors, évidemment, je précise que votre ouvrage ne parle pas que des explorateurs et des découvreurs. Vous évoquez toutes sortes de marins. Nous nous concentrons, nous, aujourd'hui, dans le cadre de cette émission sur les explorateurs, mais ce sont un peu tous les marins que vous évoquez dans cette Odyssée des marins qui paraît chez Bouquin, dans la collection Bouquin chez Robert Laffont, avec beaucoup de textes qui avaient déjà été publiés avec votre frère, oui. Patrick Poivre d'Arvor.
Il y a 15 ans, un éditeur nous a dit, écrivez deux, trois choses, que vous êtes marin, vous aimez la mer. On commençait à écrire ces découvreurs, puis se sont rendus compte que l'histoire était extraordinaire. Et donc, on a en effet raconté à travers ces pirates, ces corsaires, ces explorateurs, ces solitaires, toutes ces figures, en gros, de millénaires de cinglés.
Et de cette infinie galerie de portraits, de cette multiplicité de personnalités, se dessine, somme toute, émerge, si j'ose l'image, la figure du marin. Y a-t-il un marin universel ? Tiens, je vais vous poser la question dans un instant, Olivier Poivre d'Arvor.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
La musique du film Master and Commander de l'autre côté du monde, musique signée Christopher Gordon à l'instant sur Europe 1, car ce sont les marins qui ont marqué l'histoire, qui sont à l'honneur cet après-midi sur Europe 1 dans Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous recevez Olivier Poivre d'Arvor.
Je ne sais pas si Olivier Poivre d'Arvor est d'accord, mais je trouve que ce film est magistral. C'est absolument un très grand film, absolument, de mer et de marin, avec Russell Crowe dans le rôle principal, mais beaucoup de très grands acteurs, et c'est un chef-d'œuvre, Master and Commander. Alors là, on parle d'une marine beaucoup plus proche de nous, une marine de la fin du XVIIIe siècle. Revenons peut-être à notre époque des découvreurs. Et je disais que se dessine de toute la galerie de portraits d'explorateurs que vous brossez, se dessine la figure, somme toute, d'un personnage général, d'une sorte d'explorateur, d'un conquérant, comme aurait dit Heredia. Pas très sympathique quand même, ce sont des gens durs.
C'est très dur, d'abord le monde est dur à l'époque, très très dur. On meurt pas très vieux. Il faut savoir que là, tout ce dont on parle, soit Magellan, il meurt évidemment... une flèche d'un indigène, mais à 40 ans, c'est terminé. Donc, il faut très vite être quelqu'un. Et dans le fond, c'est pour ça que ça explique d'ailleurs parfois les familles. Colomb voyage avec ses fils. On a confiance que dans ses très proches. Vous avez vu les mutineries de Magellan. Donc, on a vraiment... On se méfie de l'autre. Surtout quand on part à 300 avec ses risques climatiques, avec ses maladies, etc. Et donc, en effet, d'abord, ils sont souvent mal fichus. Magellan, en effet, avec son pied beau... Beaucoup d'entre eux sont pas en très bonne santé. Et donc, c'est des personnages, qui sont âpres, qui sont...
Dans une grande dureté, en fait.
Oui, qui savent pas dire très bien pourquoi ils partent. Ils partent pas pour l'argent. Vous voyez, Magellan, il parle pas pour l'argent, il part pour le défi. Ils partent aussi parce qu'ils sont des cadets, parfois, parce qu'ils sont pauvres.
Il y a une revanche à prendre sur le monde.
Et donc, ils sont dans un rapport extrêmement tendu. Et puis, il faut rappeler, jusqu'au XVIIIe siècle, on ne raconte que des histoires de mecs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une femme là-dedans. Donc, ils vivent entre eux. Et les garçons ont quand même quelques désirs de temps en temps. C'est pour ça que vous citiez les escales, qui deviennent des moments de grande libération. Ceci dit, les Indiennes nous l'ont bien rendu, puisque, comme vous le savez, la syphilis est née du fait que les hommes de Colomb ont débarqué un peu trop longtemps sur les rives américaines et qui ont attrapé des maladies à travers leur sieste.
On leur en a surtout importé pas mal,
parce qu'on leur a apporté la vérole, donc tout ça a été quand même un échange terrible. Donc ce monde est très dur, et on sait qu'on va partir, qu'il y en aura un sur dix qui va, revenir, et donc ça forge des caractères assez étonnants. Et puis par ailleurs, pour obtenir la possibilité de faire ces grandes traversées, il faut aller vendre son bout de gras, il faut convaincre, et on doit ramener des choses, qu'on ne doit pas revenir comme ça, les mains vides, en disant c'est très beau, on a écrit un beau livre, etc. comme ce qu'on fait aujourd'hui, ben, il faut pouvoir ramener des promesses d'or, des promesses de conquête.
Oui, parce que derrière, il y a les États, bien entendu,
oui, bien sûr.
Et qui eux sont très demandeurs. Ça a été le cas d'Isabelle la Catholique avec Christophe Colomb, bien entendu, personnage inouï, Colomb, parce qu'on a toujours l'image de l'espèce de découvreur qui va découvrir le continent américain. D'ailleurs, il n'en est pas conscient du tout, mais il fait plusieurs voyages, hein, il faut et le
quatre
dire.
Voyages, ouais. Quatre voyages qui vont l'épuiser. Colomb, il va finir... on peut imaginer que cet homme va finir riche parce qu'il découvre l'Amérique, pas du tout. Il va être en plus spolié même du nom même d'Amérique, parce que Amerigo Vespucci va inspirer ce nom. Lui, il gardera juste le nom de la Colombie. Et il va finir aveugle, sourd, épuisé. Il aura été même emprisonné au terme du troisième voyage. Donc ce sont des épreuves absolument incroyables qu'ils vivent les uns les autres.
Il y a un nom que vous avez cité tout à l'heure, c'est celui de Cabral,
ah oui.
qu'on évoque moins souvent et qui pourtant a été essentiel dans la colonisation, lui, du Brésil.
Oui, mais alors, lui, c'est par
erreur. Avec ce partage du traité de Tordesillas dont je parlais tout à l'heure, on a coupé en quelque sorte le monde en deux, et tout ce qui se trouvait à l'ouest d'une certaine ligne appartenait au Portugal, d'où la corne du Brésil,
absolument.
Tout simplement.
Et en fait, Cabral fait ce qu'on appelle en navigation une grande volta pour prendre un peu de large, pour pouvoir aller rejoindre les Indes. Et puis il fait une volta, il se trompe parce qu'évidemment les instruments de navigation sont extrêmement imprécis. Et donc il va cogner contre une terre et donc il s'installe là quelque peu, il colonise un peu. Et évidemment, ces hommes parlent portugais et c'est pour ça qu'au milieu d'un océan qui ne parle que l'espagnol, aujourd'hui, on parle le portugais au Brésil.
Finalement,
par erreur.
De Henri le Navigateur à Cabral en passant par Magellan, et pas Magallien, je devrais dire, et bien sûr par Vasco de Gama, ce sont finalement la plupart, enfin une partie non négligeable de ces grands explorateurs sont des Portugais.
Oui.
Vasco de Gama, fabuleux. Alors lui, c'est l'autre côté. Lui, il s'en va sur la route des épices. Et...
Absolument. Alors Gama, oui, c'est la passion des épices, il faut le rappeler. Ça peut-être d'ailleurs jouer un peu pour une des raisons pour lesquelles on a écrit ce livre, c'est quand on était gamin, Patrick et moi, on s'appelait poivre, c'est qu'on nous a rappelé c'était un nom ridicule, et en même temps nous on a regardé dans le dictionnaire, on a vu que le poivre c'était à l'époque, au Moyen-Âge, une valeur incroyable, que ça valait plus cher que l'or. Et donc cette passion des épices fait que les cours européennes en réclamant, Gama et d'autres décident d'aller vers l'Inde, en effet. Et Gama, lui, ne va pas être très reconnu. Il va dire devoir, tout en étant portugais, passer par les Espagnols pour pouvoir armer ses bateaux. Il va s'installer à Calicut et il va y mourir. Ses restes seront ramenés en Europe beaucoup plus tard. Mais là aussi, c'est un personnage assez étonnant, pas sympathique. Aucun d'entre eux, on a vraiment envie de les rencontrer.
Non, c'est vrai.
Et donc, il y en a qui sont plus touchants que d'autres. Personne n'a envie de rencontrer Éric le Rouge. On n'a pas parlé de l'époque des Vikings, mais là aussi, ce sont des êtres hors du commun, très violents, certainement dotés d'une force incroyable, et puis de cette capacité, en tout cas, de résister à toutes ces menaces qui sont les tempêtes, qui sont l'inconnu, qui sont les sauvages, entre guillemets, de l'époque, et cette mort à peu près certaine.
Il y en a un dont il faut au moins citer le nom. Je parlais de l'ambition des souverains de l'époque et de la soif de l'or des cours européennes. Mais il faut savoir que voyant l'or et l'argent affluer dans les coffres de l'Espagne et du Portugal, l'Angleterre d'un côté, la France de l'autre ne veulent pas être en reste. Et le roi François Ier va se laisser convaincre. C'est Jean le Veneur qui était un de ses confesseurs qui va le convaincre en vérité. Mais il va se laisser convaincre de donner sa chance à un navigateur malouin que tout le monde connaît, au moins de nom. C'est Jacques Cartier, bien sûr.
Oui, ce qui est frappant, c'est qu'en effet, cette première partie qu'on vient de raconter rapidement, c'est la dispute entre deux pays. Et la France, et pas plus l'Angleterre d'ailleurs, ne s'intéresse à tout ça, sauf qu'ils réalisent en effet que là, il y a des bénéfices considérables à obtenir. Jean Angot, qui est un armateur de Dieppe, commence aussi un peu évidemment à intéresser la cour. Et c'est François Ier, le premier. Alors après, il y aura Colbert, etc. Enfin, la France a toujours eu un rapport difficile avec la mer.
Oui, c'est compliqué.
Très, très complexe, parce qu'on est un pays d'agriculteurs, et tout simplement, pourquoi aller ailleurs quand on est si bien chez soi? Et c'est en effet...
Le roi de France est empereur en son royaume, tranquille.
Voilà. Tu sais, Louis XIV est allé une fois visiter ses ports, alors qu'il en a, à travers Vauban, créé un grand nombre, évidemment, et puis tout un arsenal.
Louis XVI est allé une fois à Cherbourg. C'est le seul voyage de son règne.
Donc, franchement, là, il y avait en effet un retard à combler. Et Cartier va en effet décider, non pas d'aller lui découvrir l'Amérique qui avait déjà été découverte, mais d'aller vers ce grand nord en suivant la trace des morutiers. Et il va évidemment, il est très connu, encore plus connu au Canada que chez nous, hein, c'est un héros national. Il va s'installer là-bas. Il va y aller plusieurs fois, il va ramener des minerais qui croient être de l'or. Et en fait, ça va se révéler très vite une vulgaire bauxite qui ne vaut rien. Il a ramené des quantités considérables, des tonnes, je crois, de ce qu'il pensait être de l'or et qui, finalement, montreront que ces voyages-là, comme les autres, sont des voyages vains, mais des voyages qui, en tout cas...
Il va ramener quelques Indiens, j'avais raconté ça il y a pas si longtemps.
Quelques Indiens, absolument, tout à fait.
Ce qui va avoir un rôle très important dans la naissance d'un certain sentiment d'exotisme en France, bien sûr.
Il était, vous avez cité l'esclave de Magellan, mais il était très, très, très courant de ramasser quelque part, souvent pour des raisons de traduction d'ailleurs, qui permettaient de traduire.
Oui, c'était des interprètes.
Des interprètes, absolument. Et puis dans les cours royales, alors en effet, ils paradaient. En général, ils s'acclimataient assez mal au climat européen. Ils mouraient ou on les ramenait parfois dans leur pays, comme ce fut le cas avec d'autres, je pense à Bougainville ou d'autres qui avaient des esclaves qu'ils ont ramenés à Tahiti.
Alors justement, ce qui est étonnant, c'est que la France, qui entretient avec ses côtes pourtant immenses, ses mers pourtant variées et ses ports dont certains sont très forts, un sentiment complexe et difficile, cette France a donné naissance à beaucoup de grands marins. Ces grands marins, on peut dire que leur lieu de mémoire, c'est d'abord et avant tout le musée de la marine aux destinées desquelles vous présidez.
Oui, c'est un musée formidable. C'est un musée qui est installé à Paris, donc à Trocadéro, à Chaillot, qui est magnifique. Il faut aller voir parce que c'est un des derniers musées dans son jus, dans le fond. C'est un musée...
Superbe musée, voilà. Ça vraiment... Alors, j'ai souvent l'occasion de le dire, mais je ne me manque pas l'occasion de le redire.
Il y a une très belle exposition sur l'histoire de la pêche à la morue, là, bientôt. Mais Jean-Yves Le Drian nous a gentiment concédé quelques dizaines de milliers d'euros pour en refaire un... mieux présenté,
sachant un musée, aussi, vous voulez dire.
Oui, un musée, absolument. Sachant qu'on a aussi donc 4 musées de port qui sont à Rochefort, à Port-Louis, à Brest et à Toulon, et que ces musées montrent en effet cette aventure maritime qui s'est quand même beaucoup développée. On l'a pas cité beaucoup, mais à travers les pirates et les corsaires, que dans le fond, palliant l'absence d'intérêt des rois pour la marine, des armateurs malouins pour beaucoup, bretons essentiellement, mais aussi basques, ont décidé d'armer un certain nombre de bateaux. Ce sont les corsaires, et puis d'autres l'ont fait de manière un peu plus sauvage, ce sont les pirates. Et d'où cette génération assez formidable de Jean Bart, de Surcouf, qui sont ces grandes figures. Ça.
Mais quand on voit le succès extraordinaire qu'a remporté la réplique du bateau L'Hermione, hein, qui a quitté Rochefort. Ouais.
J'étais sur le bateau, moi c'est très émouvant d'être là. Je suis pas allé en Amérique mais avec eux, mais je vais les voir ce week-end d'ailleurs, ils seront à la Rochelle.
L'Odyssée des marins, découvreurs, explorateurs, pirates, corsaires et grands navigateurs. C'est l'ouvrage que nous proposent Olivier et Patrick Poivre d'Arvor dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Et puis vous venez de faire paraître un autre livre où il est là encore question de navigation, oui, Olivier Poivre d'Arvor.
Dès que j'écris, il faut qu'il y ait un fleuve, il faut qu'il y ait de la mer, etc.
Oui, ça s'appelle des marins.
Ça s'appelle L'amour à trois. Alors c'est pas du tout un livre. Vous pouvez le mettre dans toutes les mains de toutes les jeunes filles, les jeunes garçons.
Malgré le titre.
Et c'est en fait, ça raconte en effet une histoire qui se passe en Guyane sur un fleuve magnifique qu'il faut vraiment, pour ceux qui aiment le voyage, emprunter, qui est le Maroni. Et ça raconte la traversée du Maroni, la traversée du fleuve. C'est un retour sur la mémoire d'une histoire qui s'est passée dans les années 70 où une prof de philo qui avait 25 ans avait deux amants, ses deux élèves de terminale. Voilà.
L'amour à trois d'Olivier Poivre d'Arvor, c'est publié chez Grasset.
Absolument.
Merci beaucoup d'être venu nous faire partager votre amour de la mer et des marins.
Merci à vous.
Et dans un instant, Franck, vous répondrez sur Europe 1 à la question de Philippe via le site internet europe1.fr. Philippe qui va en savoir plus sur l'origine des agences de voyage.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est une question de Philippe aujourd'hui pour vous, Franck, sur le site internet europe1.fr. Franck, pourriez-vous revenir sur les origines des agences de voyage?
Oui, alors vous savez, on a parlé de grands voyages très difficiles tout à l'heure. On va parler de voyages un petit peu plus agréables vers la fin du XVIIIe siècle, à une époque où la notion de séjour estival commence à exister. Le tourisme, pour l'instant, n'est accessible qu'à une élite, bien entendu. Vous savez qu'on prend notamment l'habitude à cette époque de faire ce qu'on appelle le grand tour. C'est-à-dire que les jeunes gens de bonne famille vont faire tout un tour d'Europe et notamment d'Italie pour se cultiver, pour voir de beaux objets, pour comprendre la culture, etc. Le 5 juillet 1841, un certain Thomas Cook, il a plus de 30 ans, il monte dans un train. Et à ce moment-là, il est complètement séduit. Le reste de ses jours sera consacré au voyage, voyage de groupe, qu'il conduit dans un premier temps lui-même et puis qu'il va organiser de plus en plus. Au départ, Thomas Cook était un menuisier dans un village du comté du Berry. Et puis, il s'est mis à parcourir à pied les campagnes de la région pour distribuer des brochures qui décrivaient les ravages de l'alcoolisme. Et c'est ainsi donc que le 5 juillet 1841, il emmène avec lui 500 personnes d'une association de tempérance dans un train spécial qui va de Leicester à Longborough. Et tout ça, c'est pour un grand meeting anti-alcoolique. Il faut se remettre dans l'Angleterre de l'époque, bien entendu. Et grâce à l'accord qu'il a passé avec la compagnie des Midland Counties Railways, il va pouvoir organiser le premier voyage touristique de groupe. Ça lui donne des idées. En 1844, il passe un contrat permanent avec la compagnie pour des trains de plaisir. Alors pourquoi des trains de plaisir? Parce que jusqu'ici, il y avait une connotation extrêmement professionnelle et très utilitaire dans le chemin de fer. Et bien là, ce sont des trains de voyage. D'une certaine manière, pour aller de Leicester à Calais à l'occasion de l'exposition internationale de Paris en 1955. Et puis ensuite, il organise des voyages circulaires dans une Europe qui commence à s'équiper de chemins de fer, justement. En 1966, son fils John conduit 40 touristes anglais dans un premier voyage aux États-Unis et au Canada. Là aussi, il y a les premiers grands chemins de fer. Et en 1871, c'est Thomas Cook lui-même qui conduira le tout premier voyage de groupe autour du monde. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, les voyages organisés existent d'une certaine manière. Retenez donc la date, 1871. Alors, l'agence Thomas Cook & Sons existe depuis toute cette époque, bien entendu. Elle sera nationalisée en 1945. Elle a été mise en adjudication par le gouvernement britannique en décembre 71, vendue à Lancan. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en 1891, un an avant sa mort, Cook avait tout de même pu fêter le cinquantenaire de son agence, qui à l'époque était dirigée par un de ses fils, Thomas. Et sur sa maison natale, à Melbourne, on peut lire une plaque commémorative qui dit « He made world travel easier ». Il a rendu le voyage à travers le monde plus facile. Bonjour Marion Ruggieri.
Bonjour Franck, what an accent. Alors Franck, aujourd'hui, l'imprimante 3D est-elle en train de révolutionner nos vies? C'est la question que l'on se pose
jusqu'à
16h. J'en ai
eu sous les yeux depuis une heure là.
Oui, parce qu'alors en fait, ce qu'il faut expliquer, donc, on va faire cette émission parce que comme vous le savez, Maxence, enfant de 6 ans, né sans main droite, est devenu lundi 17 août le premier enfant français équipé d'une prothèse issue d'une imprimante 3D. On se penche donc sur cette mystérieuse imprimante qui peut créer des vêtements, des pizzas, des villages entiers, des médicaments et même peut-être un jour, qui sait, des organes vivants. Et on en a une là sous nos yeux, les gars. Sont très excités. Elle est dans le studio d'à côté et elle va fabriquer en live un objet, mais je ne vous en dis pas plus.
Oh là là, après le passé, le futur en compagnie de Marion Ruggieri. Et nous nous retrouvons demain, chère Anissa.
À demain, c'était Franck Ferrand sur Europe 1.